À voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Daniel Jeanne et Virginia Crespo.
Canal Academy vous invite à l'écoute de cette deuxième émission consacrée à l'impératrice Eugénie.
Pour ce parcours final, nous convoquerons à nouveau les cinq académiciens entendus dans la première émission. Ernest Lavis, Maurice Paléologue, Prosper Mérimée, Octave Aubry et Georges Lacour-Gaillet. Dans sa longue vieillesse, l'impératrice fut une grande voyageuse. Son yacht, le Thistle, la conduisit un peu partout, sur les côtes d'Écosse, de Norvège, en Égypte, à Ceylan, dans les eaux de la Grèce et de la Sicile.
Les voyages ont occupé une place importante dans la vie de l'impératrice. Convenances politiques, besoin de se recueillir à la suite de deuils domestiques, désir de s'isoler après des découvertes dans son intérieur qui lui avaient fait de la peine. Raison de santé, curiosité naturelle, quelle qu'en ait été la cause, elle se déplaça à maintes reprises et les déplacements d'une impératrice entraînent toujours à sa suite une partie plus ou moins grande de sa maison personnelle. Pendant la guerre de Crimée, c'est-à-dire à l'époque de l'Alliance franco-anglaise, Napoléon III avait décidé de faire à Londres un voyage officiel pour inviter la reine Victoria à venir visiter l'exposition universelle. Pour l'impératrice, ce voyage, du mois d'avril 1855, était comme son entrée dans les familles souveraines. Elle avait fait préparer des toilettes qui obtinrent à la cour d'Angleterre presque autant de succès que sa beauté. Reçue à Douvres par le prince Albert, l'empereur et l'impératrice furent conduits à Windsor. Ce fut le programme des voyages de ce genre. Dîner à Windsor, revue militaire, soirée de gala à Covent Garden, banquet à Guildhall. La reine eut des attentions particulières pour l'impératrice. Ainsi naquit la sympathie sincère qu'elle lui garda jusqu'à ses derniers jours. Au mois d'août 1860, après l'annexion de la Savoie et du comté de Nice, les souverains allèrent visiter ces provinces, dont les habitants avaient exprimé le désir de devenir français. Aix-les-Bains, Annecy, Chambéry, Nice furent les principales étapes de ce voyage qui garda presque tout le temps, au milieu de l'enthousiasme des populations, le caractère d'une pompe triomphale. Pour la promenade sur le lac d'Annecy, une estrade avait été élevée à l'arrière de l'embarcation de l'impératrice. Montée sur cette estrade, la tête et le cou nus, un diadème sur les cheveux, sur les épaules un manteau rouge aux franges d'or, elle faisait penser, dit l'un de ses compagnons, à Cléopâtre ou à la Dogaresse. De Toulon, le yacht L'Aigle transporta l'empereur et l'impératrice à Ajaccio et à Alger. Dans cette dernière ville, un ensemble de fêtes magnifiques avait été préparé. Il fallut écourter ce programme et renoncer à un voyage dans l'intérieur de l'Algérie. Des nouvelles très alarmantes étaient arrivées sur la santé de la duchesse d'Albe, cette sœur aînée à laquelle l'impératrice était tendrement attachée. Elle hâta son retour en France. Il était trop tard. Sa sœur était morte. Elle en eut un chagrin profond. Pour chercher quelque diversion à sa douleur, elle alla faire en Écosse un séjour de quelques semaines. À la fin d'une saison à Biarritz en 1863, il prit fantaisie à l'impératrice de faire en bateau le tour du Portugal et de l'Espagne par Lisbonne, Cadix, Gibraltar, pour rentrer en France par Marseille. La reine Isabelle, qui le sut, l'invita à profiter de ce voyage pour venir à Madrid. L'impératrice se rendit à son désir. Ce lui fut une douce satisfaction de revoir, souveraine des Français, la patrie qu'elle avait quittée sujette de Sa Majesté catholique. En 1864, l'impératrice fit une saison aux eaux de Schwalbach, dans le Nassau. C'était une station qu'elle avait déjà fréquentée avant son mariage. Elle y vint à présent sous le nom de comtesse de Pierrefonds. Malgré l'incognito qu'elle désirait garder, elle y reçut la visite de la reine Sophie des Pays-Bas, du roi de Prusse, Guillaume Ier, du tsar Alexandre II. Le voyage des deux souverains à Salzbourg en 1867 fut un voyage de politesse dans des circonstances douloureuses. Ils allaient faire une visite de condoléances à la famille impériale d'Autriche pour la tragédie qui avait coûté la vie à l'archiduc Maximilien au Mexique et dans laquelle ils avaient, l'un et l'autre, leur part de responsabilité. Pour le voyage de l'année 1869 dans la Méditerranée orientale, le dernier que l'impératrice ait accompli comme souveraine, il eut d'un bout à l'autre tous les caractères d'une partie de plaisir et d'un triomphe. Après quelques jours à Ajaccio, où elle s'était arrêtée à l'occasion du centenaire de la naissance de Napoléon Ier, l'impératrice était partie pour l'Égypte. Elle allait inaugurer le canal de Suez, œuvre de son cousin, Ferdinand de Lesseps. Elle fit la traversée de la Méditerranée à bord du yacht impérial, l'Aigle. Elle était accompagnée des deux filles de la feu duchesse d'Albe et de cinq dames de sa maison. Du Caire, le 23 octobre, elle écrivait à l'empereur.
« Mon très cher ami, merci de ta bonne lettre. Je suis heureuse, tu le sais, quand tu approuves ce que je fais. » Et tu peux être sûr que mes efforts seront toujours portés à te faire le plus grand nombre d'amis possible. L'idée du roi, le vice-roi Ismaïl, m'a bien amusée, car il a été d'un galant à se faire dresser les cheveux. Je ne sais si la présence d'un tiers le gêne pour me faire des confidences politiques, mais dans tous les cas, pas les autres. Enfin, j'ai fait de mon mieux pour lui plaire et je te ferai bien rire en rentrant et en te racontant mon entrevue. Je ne puis te donner mes impressions de voyage. J'ai trouvé chez tous et partout le désir bien vif de nous être agréables et de tout faire pour cela. Le Caire a conservé son ancien cachet, pour moi, moins nouveau que pour ces dames, car cela me rappelle l'Espagne. Les danses, la musique et la cuisine sont identiques. Nous allons ce soir à un mariage qui doit avoir lieu chez la mère du Khédive. Hier au soir, nous avons assisté aux prières des derviches tourneurs et hurleurs. C'est inconcevable qu'on puisse se mettre dans un état pareil. Cela m'a causé une grande impression. Les danses dans le harem sont celles des bohémiennes d'Espagne, plus indécentes peut-être. Aujourd'hui, je suis restée tranquille pour me reposer, car je suis très fatiguée mais très intéressée par tout ce que je vois. On ne dirait jamais que nous avons en si peu de temps fait tant de chemins et visité tant de pays divers. Je fais collection de souvenirs et je te raconterai cela au coin du feu.
Des passages d'une autre lettre du 27 octobre, écrite sur le Nil, à bord de l'impératrice, renferme des détails intéressants.
Mon bien cher Louis, je t'écris en route sur Assouan, sur le Nil. Te dire que nous avons frais ne serait pas absolument la vérité, mais la chaleur est fort supportable car il y a de l'air. Mais au soleil, c'est autre chose. D'ailleurs, par télégraphe, je te dis l'état de l'atmosphère. J'ai de tes nouvelles et de celles de Louis tous les jours, par télégraphe. C'est merveilleux et bien doux pour moi, puisque je suis toujours tenue à la rive amie par ce fil qui me rattache à toutes mes affections. Je suis dans le ravissement de notre charmant voyage et je voudrais t'en faire la description, mais tant d'autres, plus savants et plus charmants conteurs que moi, ont entrepris cette œuvre qu'il me semble que dans l'admiration muette, je dois m'enfermer. Je jouis de mon voyage, des couchers de soleil, de cette nature sauvage, cultivée sur les rives dans une largeur de 50 mètres, et derrière le désert, avec ses dunes, et le tout éclairé par un soleil ardent.
L'inauguration du canal eut lieu le 17 novembre. 68 navires firent la traversée. En tête s'avançait l'aigle, qui portait l'impératrice, l'empereur d'Autriche-Hongrie, le Khédive, Ferdinand de Lesseps. Le 20 novembre, toute la flottille jetait l'ancre dans la rade de Suez. Le commandant de l'aigle notait sur son journal de bord. Mouillé sur la rade de Suez, c'est-à-dire la mer Rouge, le 20 novembre 1869, à 11h30 du matin. Signé Eugénie. Parmi les 33 signatures qui se joignirent à celle de l'impératrice, on relève les noms de Ferdinand de Lesseps, Mariette. 10 mois plus tard, l'Empire s'écroulait, et la souveraine, dont la beauté et le charme venaient de contribuer à l'éclat d'un événement exceptionnel, abandonnait les Tuileries à la Révolution. Ferdinand de Lesseps faisait partie à ce moment des amis qui assuraient sa fuite. Il essaya pendant quelque temps d'empêcher l'envahissement du palais. En quittant l'Égypte, l'impératrice fit un voyage à Constantinople. Ce fut encore une succession de fêtes. Elle rentra à Paris au moment où l'Empire traversait une crise politique qui devait être la dernière.
Après avoir évoqué la vie brillante et les succès de l'impératrice Eugénie, brossé un tableau de la cour impériale, des fêtes, nous évoquerons maintenant son rôle en politique et la dernière partie plus sombre de son existence. Dans une lettre adressée en 1880 à son fidèle secrétaire, Franceschini Pietri, Eugénie se décrit comme « celle à qui Dieu donna tant de choses et à qui il enleva un par un tout ce qu'il avait donné, en lui laissant l'amertume des regrets comme seul compagnon de route. »
L'impératrice se serait écriée
« Je déteste la politique !»
Mais elle avait le goût du pouvoir. Voici le point de vue d'Ernest Lavis.
Ce qu'elle détestait dans la politique, c'est le travail régulier, suivi, méthodique, la besogne de bureau d'où sortent tant de papiers à lire. Mais s'élever au-dessus de ce terre-à-terre, planer, gouverner, régner, cela est autre chose. N'oublions pas que, bien qu'elle ne fût pas le moins du monde hautaine, l'impératrice portait en elle la fierté d'être l'impératrice des Français, et aussi la fierté, au moins égale, d'être grande d'Espagne. Il n'est pas possible que ce double sentiment n'ait pas produit en elle, sans qu'elle se l'avoue à elle-même, de l'orgueil. Ne pas oublier non plus cette imagination qui se plaisait aux grands rêves. Quelles étaient ses idées sur le gouvernement de la France ? Filon déclare qu'elle n'était pas une cléricale, pas même une dévote. Rien de plus juste, à mon avis. Elle était très religieuse. Des gestes de la piété espagnole accompagnaient sa prière fervente. Elle n'a jamais permis au doute de troubler sa conscience. Sa foi était une ferme forteresse défendue par sa volonté. Mais elle respectait toutes les croyances. Elle s'intéressait aux diversités du sentiment religieux, et l'esprit d'intolérance lui était inconnu. Dans son entourage familier, on ne voit aucune soutane noire ou violette, point de calotte rouge, point de froc monacal. Souveraine, son gouvernement n'aurait pas été un régime de prêtres. Il faut cependant noter en cet endroit que la chute du pouvoir temporel des papes lui fut très pénible, et même l'offensa grièvement. Elle exigeait qu'au moins l'indépendance du souverain pontife fût assurée par la possession de Rome. Elle dut avoir à ce propos de vives discussions avec l'empereur. Certainement elle félicita M. Rouher d'avoir répondu à la gauche de la chambre qui réclamait l'évacuation de Rome, par le fameux « jamais ». Jamais, un mot qu'il ne faut jamais dire. Un jour à Farnborough, elle avouait à Philon qu'elle n'aimait guère les réformes libérales de la fin de l'Empire. Elle pensait que l'empereur était allé trop loin, qu'il aurait dû réserver à son fils l'honneur de rétablir la liberté politique en France. Au fond, elle n'avait point de goût pour le régime parlementaire où le souverain règne sans gouverner. Et puis, un des premiers actes de M. Émile Ollivier avait été de l'exclure du Conseil des ministres, où elle siégeait depuis quelques années par la volonté de l'empereur. Et puis, monsieur le président du Conseil prenait une grande importance qu'il ne dissimulait pas. Une foule se pressait aux réceptions de l'hôtel présidentiel de la place Vendôme. Il venait moins de monde au lundi de l'impératrice. Elle était donc autoritaire, mais en même temps, une démocrate, et très sincèrement. Des actes d'elle, nombreux et touchants, prouvent qu'elle s'intéressait aux pauvres gens. Elle allait, déguisée en vieille dame à lunettes, voir les familles miséreuses. Au retour d'une de ses visites, elle disait à Philon qu'il fallait qu'on menât le prince dans les logis des quartiers excentrés.
Il ne sait pas ce que c'est que la misère. Il croit probablement que les pauvres sont ceux qui n'ont pas de voiture. Il faut qu'il comprenne, qu'il se rende compte, qu'il écoute les récits de ces malheureux dans lesquels il y a beaucoup de mensonges, mais encore plus de vérité. Il faut qu'il connaisse les affreux logis, sans air et sans pain, où le bonheur est impossible. Il ne peut pas régner sans avoir vu cela.
Un jour, dans une longue promenade, elle me parla des réformes sociales de Napoléon III, surtout de la loi fameuse qui autorisait les coalitions ouvrières. Elle me dit
« C'est là qu'est l'honneur du règne. »
La guerre du Mexique, 1855-1867. L'expédition du Mexique a pesé lourdement sur la destinée du Second Empire. On accusa l'impératrice d'avoir poussé Napoléon III à cette guerre qui serait sortie, pour ainsi dire, toute faite du petit salon privé de l'impératrice. Après le drame de Querétaro et l'exécution de l'empereur du Mexique Maximilien, un mot courut alors à Paris. C'est la faute de l'Espagnol.
Plus tard, en 1904, Maurice Paléologue s'entretint avec l'impératrice à ce sujet.
À cette évocation du Mexique, l'impératrice rejette le buste en arrière comme si une décharge électrique lui sillonnait l'épine dorsale et, d'une voix forte, les prunelles étincelantes.
Vous excusez ? Pourquoi ? Je n'ai pas honte du Mexique. Je le déplore, je n'en rougis pas. Je suis même toujours prête à en parler, car c'est un des thèmes que l'injustice et la calomnie ont le plus exploité contre nous.
Elle s'applique alors à me démontrer que l'aventure mexicaine, dont les origines ont un si mauvais renom, fut au contraire la résultante d'une méditation très relevée, l'accomplissement d'une très haute pensée politique et civilisatrice.
Je vous affirme que, dans la genèse de l'entreprise, les spéculations financières, les recouvrements de créances, les bons Jecker, les mines de Sonora et du Sinaloa ne tinrent aucune place. Nous n'y songions même pas. C'est beaucoup plus tard que les agioteurs et les fripons cherchèrent à profiter des circonstances. Mais on a vu cela dans toutes les grandes affaires humaines, sous tous les régimes, à toutes les époques, tenez. Je lisais récemment l'histoire de la réforme en Allemagne de Janssen. Eh bien, j'y voyais le rôle énorme que les argentiers de Francfort, d'Augsbourg, de Nuremberg ont joué dans la rivalité des princes catholiques et des princes luthériens. La réforme n'en est pas moins un des drames les plus émouvants qui ait soulevé la conscience chrétienne.
Puis elle me rappelle que dès 1846, le captif de Ham rêvait de constituer dans l'Amérique centrale un solide empire latin qui eût barré la route aux ambitions des États-Unis. C'est le Nicaragua qu'il visait, de préférence, à cause des facilités qu'on y aurait trouvées pour le creusement d'un canal interocéanique. Aussi, eut-il vite fait d'apercevoir l'opportunité d'une intervention française au Mexique le jour où la dictature de Juárez y déchaîna de nouveau les passions révolutionnaires, tandis que la guerre de sécession dressait l'une contre l'autre, et pour longtemps, les deux moitiés de la grande république voisine. Quand l'impératrice a terminé son préambule, je lui demande « Mais à quelle date l'idée s'est-elle cristallisée dans l'esprit de Napoléon III ? D'où lui est venue la citation finale et définitive ? Et brusquement ?»«
Cela s'est fait en 1861, à Biarritz, par moi. »
Dans cette déclaration tranchante, je reconnais ce que j'ai maintes fois observé chez l'impératrice, le courageux parti pris de revendiquer hautement toutes ses responsabilités propres, si accablantes qu'elles puissent être pour sa mémoire. Elle me raconte ensuite les entretiens qu'elle eut à Biarritz pendant l'automne de 1861 avec un émigré mexicain, Don José Hidalgo, qu'elle accueillait depuis quelques années dans son cercle intime. Leur conclusion fut que les puissances dont les nationaux étaient les plus nombreux au Mexique, c'est-à-dire la France, l'Angleterre et l'Espagne, devaient y intervenir sans retard et très énergiquement pour y rétablir l'ordre avec l'appui du Parti conservateur. Napoléon III ayant prêté une oreille complaisante à ce projet, d'autres émigrés entrèrent en scène, Almonte, Gutiérrez, Iglesias, Monseigneur Labastida et le père Miranda. C'est ainsi que fut élaborée dans l'ombre une vaste combinaison cléricale et monarchique dont la France devait être l'âme et le seul instrument, car on pensait bien que le concours de l'Angleterre et de l'Espagne se bornerait à l'occupation temporaire de quelques ports mexicains. On allait donc restaurer, en faveur d'un prince catholique, le vaste empire de Montezuma et de Guatimozin. Mais à quel prince offrirait-on la couronne ? On hésitait entre le duc de Modène, le duc de Parme, Don Juan de Bourbon, le duc de Montpensier, le duc d'Aumale. Après un long mutisme, Napoléon III se prononça pour l'archiduc Maximilien, frère de l'empereur François-Joseph. La désignation de ce Habsbourg semblait justifiée par l'intelligence, la souplesse et les aimables qualités dont il avait fait preuve quelques années plus tôt dans le gouvernement difficile du royaume lombard vénitien. D'autre part, il était marié à la princesse Charlotte de Belgique. L'influence active de son beau-père, le roi Léopold, exerçait à la cour de Londres, lui serait donc précieuse. L'impératrice acheva par ces mots.
Enfin, je ne vous cacherai pas que dans la pensée de mon mari, l'élévation d'un archiduc autrichien sur le trône du Mexique devait un jour lui servir d'argument pour obtenir de François-Joseph la cession de Venise à l'Italie. Par ce détour, le programme de 1859 serait pleinement réalisé. L'Italie serait dorénavant libre jusqu'à l'Adriatique. Vous connaissez maintenant toutes les origines de l'entreprise mexicaine. Je défie qu'on y trouve rien qui ne soit parfaitement avouable et digne de la France.
Depuis le début de son apologie, la même question me taquine les lèvres. En quoi cette conspiration d'émigrés intéressait-elle la France ? Mais l'impératrice me presse de parler à mon tour.
Quelle est votre opinion sur l'affaire du Mexique ? Ce que je viens de vous dire ne vous impressionne-t-il pas ?
Et son regard tendu se braque sur moi. J'admets, dis-je, que l'entreprise mexicaine, considérée du point de vue théorique, ait pu séduire l'idéalisme généreux de Napoléon III. Ce que je ne comprends pas, c'est que du point de vue pratique, l'impossibilité d'un succès ne l'ait pas frappé immédiatement.
Hélas, nous nous sommes trompés sur les résistances et les complications qui nous attendaient. Ou plutôt, on nous a trompés, de bonne foi sans doute, je n'accuse personne, mais vous n'imaginez pas les radieuses perspectives qu'on faisait miroiter devant nous. Ainsi, on nous assurait que le peuple mexicain détestait la République et saluerait avec enthousiasme la proclamation d'une monarchie, qu'un prince catholique de grande race et de grande allure comme l'archiduc Maximilien serait accueilli partout, à bras ouverts, sous les arcs de triomphe et les fleurs. Que les États-Unis eux-mêmes, déchirés par leur guerre civile, se résigneraient facilement à notre intervention, etc.
Cette fois encore, je me retiens de lui répondre, mais pour estimer à leur juste valeur toutes ces calembredaines, il suffisait de lire les journaux anglais, les journaux américains, les avertissements identiques et répétés qui nous venaient de Londres et de Washington, de Lord Russell et du président Lincoln. L'affirmation péremptoire que chez le peuple mexicain, l'idée monarchique se confondait avec l'odieux souvenir de l'absolutisme espagnol et de la tyrannie cléricale. Que ce trône dont l'élévation coûterait déjà tant de peine s'effondrerait aussitôt qu'il n'aurait plus l'appui des baïonnettes étrangères. Enfin, que les États-Unis, quelles que fussent leurs discordes actuelles, ne ratifieraient et ne toléreraient jamais la souveraineté de Habsbourg sur le continent de la Libre Amérique. En abordant ce douloureux sujet, la pauvre impératrice a-t-elle trop présumé de ses forces ? Craint-elle que la franchise impulsive de son premier aveu ne l'entraîne à d'autres aveux plus graves encore ? Devine-t-elle peut-être les objections muettes qui s'accumulent en moi ? Toujours est-il qu'elle s'interrompt subitement, puis très digne, avec une mâle et concise vigueur, elle prononce
« Dans l'affaire du Mexique, l'empereur et moi nous serons toujours condamnés puisqu'elle s'est achevée à Querétaro. Mais pour être juste à notre égard, il faudra considérer que plusieurs fois, par exemple après l'entrée de nos troupes à Mexico, après la campagne victorieuse de Bazaine dans les provinces du Nord, après la chaude réception de Maximilien dans sa capitale, nous avons pu croire que l'entreprise allait réussir. Au surplus, nous n'avions pas le droit d'agir autrement que nous avons fait. L'honneur du drapeau, la signature de la France était engagée. Nous devions poursuivre notre effort jusqu'à l'extrême limite du possible. »
Évoquons maintenant le rôle d'Eugénie dans ces trois périodes de régence qu'elle s'était vue confier en l'absence de l'empereur.
Mérimée, dans sa lettre de juin 1859, évoque la première régence d'Eugénie.
Tous les ministres sont émerveillés de la façon dont l'impératrice préside le conseil et de sa facilité à comprendre les affaires. Il est impossible de faire son métier de souveraine avec plus de dévouement et d'intelligence. Elle sait la Constitution par cœur et cite les décrets et les senatus consultes comme un vieux conseiller d'État.
Le Piémont, qui avait pour roi Victor Emmanuel II, était porteur de tous les espoirs des partisans de l'unité italienne. Napoléon III, qui était favorable au principe des nationalités et rêvait d'une fédération italienne présidée par le pape, soutint le Piémont quand il entre en guerre contre l'Autriche en 1859. Les victoires de Magenta et de Solferino donnent la Lombardie au Piémont. Florence, Modène, Parme, Bologne et Ferrare, insurgés, votent leur réunion au Piémont. C'est la première étape de l'unité italienne. L'académicien Octave Aubry évoque à son tour la régence de 1859.
L'armée française partit pour les Alpes. Des régiments défilèrent un matin, musique en tête, devant les Tuileries, acclamant l'empereur. Grave, il les saluait de la main. Eugénie, tenant dans ses bras le prince impérial, le montrait à ces jeunes hommes dont beaucoup allaient mourir et qui agitaient gaiement vers lui leur képi. Elle pleurait. Ses larmes, trop lourdes, tombaient sans qu'elle pût les retenir. Encore un peu et l'empereur la quitterait pour prendre le commandement suprême. Il le voulait absolument. Il y allait, assurait-il, de son prestige. Il se croyait des talents militaires. Lui aussi, comme l'autre, aurait sa campagne d'Italie. Eugénie accompagna l'empereur dans son train jusqu'à Montereau. À chaque station, une foule les applaudissait. La guerre était populaire, surtout chez les ouvriers. Les vieux rêves de 48 agitaient encore les âmes. On servit le dîner. L'impératrice distribua des médailles pieuses aux officiers qui partaient avec l'empereur et leur serra la main à tous, puis sans faiblir, quoiqu'elle ne l'eût jamais quitté depuis 6 ans, elle embrassa Napoléon. Elle rentra à Paris, régente. Des lettres patentes communiquées au Sénat lui donnaient, pendant l'absence de l'empereur, l'exercice de la souveraineté. Elle ne l'avait point demandé, mais Napoléon jugeait l'occasion bonne pour qu'Eugénie fît vraiment son apprentissage de souveraine. Le pays s'habituerait à la voir gouverner. Elle en recevrait un surcroît d'autorité précieux, au cas où, lui défaillant, il faudrait qu'elle prît le pouvoir durant la minorité de son fils. Elle fut heureuse d'une marque si haute d'estime. Elle ne songea plus qu'à bien remplir sa tâche, à faire son métier, comme elle disait gravement à Mérimée, qui, venue un matin à Saint-Cloud, la trouva en train d'apprendre par cœur la Constitution. Il revenait de Carabanchel, où Madame de Montijo avait en son honneur offert des fêtes qui rappelaient celles du bon temps. Donna Manuela, incorrigible, complotait encore une fois pour le marier. Eugénie rit, puis en espagnol, lui demanda des nouvelles de sa sœur, de ses parents, de ses amis de Madrid. Presque aussitôt, elle regarda sa montre, cachée dans la ceinture de sa robe.
« Vous déjeunerez avec moi, monsieur Mary, mais nous pourrons mieux causer. Maintenant, je dois aller au conseil. »
Elle présidait tous les 2 jours un conseil des ministres où parfois assistaient le roi Jérôme et certains membres du conseil privé. Attentive, elle écoutait les rapports, prenait part aux discussions, ses demandes, ses ripostes, montrait quel intérêt croissant elle prenait aux affaires. Après la séance, elle se faisait expliquer dans le détail par l'un ou l'autre des ministres les questions qu'elle ne connaissait pas. L'adroit Rouher la consultait en dehors de ses collègues. Aussi l'avait-elle pris fort en gré.
Ah, après la paix, cela va me manquer.
À l'intérieur, tout restait calme. Les rouages administratifs allaient leur train. Le public avait accepté la régence avec bonne grâce. Les journaux officieux abondaient en louanges sur la sagesse précoce de l'impératrice, sa maturité d'esprit. Eugénie s'en rengorgeait. Elle fit preuve de décision à propos d'une grève des cochers de fiacre qu'elle réduisit en donnant l'ordre de les remplacer par des soldats du train d'équipage. On encensa son énergie. Les nouvelles de la guerre étaient bonnes. Quoique l'armée manquât de vivres et de munitions, que le commandement se montra divisé sous la direction ignorante de l'empereur, la vigueur des troupes emporta le succès. Le 4 juin, le canon des Invalides avait salué Magenta. Le jour se levait à Saint-Cloud quand arriva le télégramme de Solferino. Grande bataille, point. Grande victoire, point. Napoléon, point. Ainsi réveillée, Eugénie ne put demeurer dans son lit. Il lui semblait qu'elle étouffait. Elle avait besoin de remuer, de parler, d'agiter sa joie. Elle se leva, s'habilla seule en un tour de main et descendit au parc où elle alla annoncer la nouvelle aux sentinelles et aux corps de garde. La garde nationale lui offrit une couronne de laurier d'or. Quand avec le prince impérial, elle vint à Notre-Dame pour assister au Tédéum, sa voiture, emplie déjà de bouquets par les troupes, fut criblée de fleurs. Le petit prince riait, rouge, excité. Il renvoyait les fleurs à la foule et des baisers. Sa mère ne pouvait le faire asseoir. Elle lui répétait
« Tu te tiendras bien à l'église, Loulou, n'est-ce pas ?»
Le petit répondait crânement « Je ferai comme les hommes. » Il avait 3 ans. Il remplit sa promesse et ne bougea durant l'office.
La deuxième régence d'Eugénie, en 1865, à l'occasion du voyage en Algérie de l'empereur Napoléon III. La conquête de l'Algérie, entreprise en 1830 par Charles X, se poursuit sous Louis-Philippe et Napoléon III. Napoléon III essaie de transformer la conquête en royaume arabe associé à la France et dont il serait lui-même le souverain. L'émir Abdelkader s'était rendu en décembre 1847. Placé en résidence surveillée en France, il fut libéré par Napoléon III et il résida ensuite en Syrie.
Écoutons le récit qu'en fit l'académicien Lacour Gaillet.
Au mois de mai 1865, alors que la guerre faisait rage au Mexique, Napoléon III était parti pour l'Algérie. Son voyage dura 5 semaines. Au cours de son absence, l'impératrice exerça la régence pour la seconde fois. Divers témoignages montrent que l'impératrice voyait avec inquiétude les hésitations, les atermoiements, les contradictions de la politique impériale. Comme épouse et comme souveraine, elle souffrait de constater que l'état de santé de l'empereur ne lui permettait pas de prendre des résolutions énergiques. On disait que Napoléon III était atteint de crise de rhumatisme. Il était atteint, en réalité, d'une maladie de la vessie de caractère très grave. L'impératrice ne pouvait pas ne pas éprouver de grandes inquiétudes. Elle faisait, à ce propos, des confidences au prince de Metternich. On en trouve l'écho dans une dépêche de cet ambassadeur à son gouvernement, en date du 26 juillet 1866. « L'empereur, lui a dit l'impératrice, est plus exténué que jamais. Il est à la merci de celui dont il a fait un premier ministre, Rouher, le vice-empereur. Les conseils des ministres auxquels elle assistait depuis 2 ans lui fournissaient des preuves de cet épuisement. L'empereur ne pouvait plus diriger le conseil. C'est au point qu'avant-hier lundi, l'impératrice proposa à l'empereur d'abdiquer et de lui confier la régence.
« Je vous assure que nous marchons sur notre décadence. » Et ce qui vaudrait le mieux, c'est que l'empereur disparût subitement. Pour quelque temps, du moins.
Metternich faisait suivre les propos de l'impératrice de ses impressions personnelles. « Jamais, depuis que je connais le couple impérial, je n'ai vu l'empereur si complètement nul. Et l'impératrice prenant à cœur nos intérêts avec une fougue et un zèle si extrêmes. Il ne faut point perdre de vue que cette dépêche du 26 juillet est postérieure de 3 semaines à la catastrophe de Sadowa, quand l'armée autrichienne continuait son mouvement de retraite sur le Danube. L'armistice de Nikolsburg est du surlendemain, 28 juillet. Dans ces circonstances qui pouvaient être désastreuses pour l'Autriche et de si grandes conséquences pour la France, si l'impératrice a vraiment songé à substituer à la politique d'inertie dont elle était le témoin attristé, une politique de décision et de virilité, qui pourrait lui en faire un crime? Les événements lui ont donné pleinement raison. Depuis quelque temps, dans l'entourage de l'empereur, on parlait d'Émile Ollivier. Sans la mort de Morny, qui était survenue au mois de mars 1865, le futur ministre de l'Empire libéral aurait peut-être gagné plus tôt l'empereur à ses idées politiques. L'impératrice, à ce moment, paraissait bien prendre parti pour le régime constitutionnel. Elle avait entendu Persigny dire, chez la princesse Mathilde, que si le corps législatif montrait quelques velléités d'opposition, l'empereur le casserait et se passerait de lui. Son oncle s'était bien passé du tribunat. L'impératrice était intervenue aussitôt et, d'une voix animée, elle avait dit à Persigny
« Non, monsieur, on peut le lui conseiller, mais l'empereur ne fera pas une sottise pareille. »
L'impératrice s'intéressait beaucoup au sort de la classe ouvrière. Émile Ollivier avait prononcé à la tribune du corps législatif un discours important sur le droit de grève. Ce fut pour la souveraine une raison de le faire inviter aux Tuileries pour l'entretenir directement. Elle s'occupait alors, c'était pendant sa régence de 1865, de transformer en pénitenciers agricoles les prisons de régime cellulaire dans lesquelles étaient enfermés les jeunes détenus. Émile Ollivier était tout à fait partisan du même projet. Ainsi commencèrent des rapports qui aboutirent bientôt aux relations personnelles de l'empereur et du futur ministre. Mais que d'orages en perspective sur l'horizon politique. Le procès Baudin avait fait lever contre l'auteur du 2 décembre toute une moisson de haine. La puissance oratoire de Gambetta venait de s'y révéler d'une manière terrible.
« Mon Dieu, qu'est-ce que nous avons donc fait à ce jeune homme ?»
Évoquons maintenant la 3e régence de l'impératrice Eugénie, la guerre avec la Prusse. Depuis le début du XIXe siècle, la Prusse occupe dans le centre de l'Europe, et en particulier en Allemagne, une place considérable. Le roi Guillaume Ier choisit en 1862 Otto von Bismarck comme chancelier. Bismarck exclut l'Autriche de la Confédération des États allemands après la défaite de Sadowa en 1866. C'est l'amorce du futur empire allemand. La puissance de la Prusse va en augmentant. En 1870, la France entre en guerre contre la Prusse. Ernest Lavisse raconte.
Cette guerre sera ma guerre,
aurait-elle dit. Mais ce propos a été démenti par celui même que l'on assurait l'avoir entendu. D'autre part, M. de Parieux affirme que l'impératrice lui demanda, au moment où il sortait d'un des derniers conseils tenus à Saint-Cloud, ce qu'il pensait de la situation. Il répondit « Madame, je pense que, si l'Angleterre nous offrait sa médiation, nous aurions grand tort de ne pas l'accepter. » Elle répliqua
« Je le crois, comme vous. »
Mais il est vrai qu'elle accepta vite la guerre, bien plus vite que l'empereur, qui ne fit que s'y résigner. Elle crut, comme à peu près tout le monde, que la victoire était certaine et serait prompte. Elle rêva d'un retour triomphal des troupes, sous l'arc élevé à la gloire de l'oncle passerait le neveu et le petit-neveu, Napoléon III et celui qui certainement un jour serait Napoléon IV. L'empereur partit donc pour l'armée le 28 juillet. Et deux jours après, il écrivait à la régente une lettre désespérée, désespérante. Il n'avait trouvé à Metz que désastre, confusion, mésintelligence, la moitié seulement des effectifs prévus. Le service des approvisionnements et des transports inexistant. Étrange document, où l'impérator avoue qu'il ignorait totalement l'état de ses armées. Et dans la nuit du 4 au 5 août, arrive à Saint-Cloud la nouvelle de la défaite de Wissembourg. Paris s'étonne et s'agite. Et le 6 août, la nouvelle court d'une grande victoire de MacMahon. Paris acclame et pavoise, mais la nouvelle est fausse. Des groupes furieux courent par les rues, criant « Enlevez les drapeaux !» Paris s'exaspère. Et ce même jour, 6 août, MacMahon est battu à Reichshofen et Frossard à Forbach. Monsieur Émile Olivier envoie un message à Saint-Cloud. Il prie la régente de signer un décret qui déclarera Paris en état de siège et de revenir aux Tuileries avec toutes les troupes dont elle peut disposer. Or, ces troupes, c'étaient les 160 hommes présents au dépôt des voltigeurs de la garde. Et l'impératrice reçoit une dépêche du grand quartier général. Nos troupes sont en pleine retraite. Il ne faut plus songer qu'à défendre la capitale. Elle se décide à partir pour Paris immédiatement. Elle envoie au ministre l'ordre de l'attendre aux Tuileries, où elle préside le conseil le 7 août à 3h du matin. Et les chambres ayant été convoquées pour le 9 août, s'ouvre la crise ministérielle. Au ministère Olivier succède le ministère Palikao. Et le 17 août arrive de Châlons une dépêche annonçant que l'empereur, qui a remis au maréchal Bazaine le commandement de l'armée de Metz, va rentrer à Paris, et que l'armée de MacMahon se reformera sous les murs de la ville. Sur quoi, après longue délibération, la régente signifie à l'empereur qu'il ne doit pas revenir à Paris, et que l'armée de MacMahon doit aller porter secours au maréchal Bazaine. Et l'on ne sait plus ce que va devenir l'empereur. Il ne commande plus l'armée de Metz, il ne commandera pas l'armée de MacMahon. Et le 23 août, MacMahon commence sa fatale marche. Et le 3 septembre, après-midi, la régente reçoit la dépêche de Sedan. Filon, qui vient d'apprendre la nouvelle à la chambre, rentre aux Tuileries. Il rencontre M. Conti, chef du cabinet de l'empereur. Tous les deux se demandent si l'impératrice connaît le désastre. Elle leur apparaît, au haut du petit escalier qui faisait communiquer les appartements de l'empereur avec les siens. Elle est pâle, terrible, les yeux durs, flambant de colère, presque défigurée par l'émotion, et elle crie.
« Vous savez qu'ils prétendent que l'empereur s'est rendu, qu'il a capitulé? Vous ne croyez pas cette infamie? Vous ne le croyez pas ?»
Monsieur Conti murmure quelques paroles. « Madame, il y a des circonstances. » Elle l'interrompt, et son âme soulevée jusqu'en ses dernières profondeurs, se répand en un torrent de paroles tumultueuses et folles. Ce qu'elle dit alors, continue de la répéter à personne. Et je mourrai comme lui sans l'avoir répété. Le lendemain, ce fut le 4 septembre. Telle est, brièvement résumée, l'histoire catastrophique des 38 journées écoulées entre le 6 juillet 1870 et la chute de l'Empire. Est-il possible d'y discerner, pour la juger ensuite, la conduite de la régente? Bien des accusations ont été portées contre l'impératrice. On lui a reproché comme un acte particulièrement odieux d'avoir empêché le retour de l'empereur à Paris. Elle a donné ses raisons au général Trochu dans la délibération qui a précédé la décision.
« Général, savez-vous que 50 hommes armés pourraient arriver jusqu'à cette chambre et me massacrer? On ne m'attaque pas pourtant, précisément parce que je ne me défends pas. Parce que l'on sait bien que, moi disparu, l'Empire resterait debout. Mais supposons l'empereur dans ce palais, qui est un piège à prendre les souverains. Imaginez l'assaut de toutes les haines coalisées contre lui. De deux choses l'une. » Où l'armée prendrait son parti, et alors ce serait une guerre civile entre elle et les Parisiens armés. Ou elle l'abandonnerait, et ce serait une révolution, un massacre. Dans les deux cas, qui gagnerait? Les Prussiens?
Ceux qui ont vécu à Paris les journées de la fin d'août 1870 souscriront à ce jugement. Mais voici une autre accusation qui porte juste. L'impératrice a outrepassé les pouvoirs que lui attribuait l'acte par lequel la régence fut constituée. Elle n'avait pas le droit de décréter l'état de siège, de convoquer les chambres, de constituer un ministère. Elle a donc usurpé la souveraineté. Tout cela est parfaitement vrai. L'impératrice s'est excusée par la nécessité des résolutions promptes. Mais, même dans son entourage intime, on s'inquiétait. « Votre Majesté agit révolutionnairement », disait Filon, qui eut avec elle une sérieuse conversation le 17 août. Une dépêche avait annoncé à l'empereur la décision prise que l'armée de Châlons ne se replierait pas sur Paris. L'impératrice écrivit à son mari une lettre explicative dont elle montra le brouillon à Filon. Celui-ci lui demanda d'effacer quelques mots trop durs. Elle y consentit, mais il aurait voulu qu'elle refît toute la lettre. Pourquoi ne se contentait-elle pas d'exposer les raisons qu'avait fait valoir auprès d'elle le ministre de la Guerre, le ministre de l'Intérieur, le préfet de police, en réservant à l'empereur la décision suprême. L'impératrice s'y refusa. Elle maintenait l'usurpation. Que se passait-il donc en elle ? Comme Filon, je crois que l'impératrice fut portée par les événements et son propre caractère à dépasser sa fonction. Les premiers jours de la régence, elle avait été une personne de peu d'importance. À peine la tenait-on au courant des affaires. Mais la situation s'aggrave, les événements se précipitent. La régente est rappelée à Paris, d'urgence. Là, on s'aperçoit qu'elle est, dans le désarroi qui commence, pleinement maîtresse d'elle-même, résolue, vaillante. Tout le monde en est étonné. Émile Ollivier s'écrie. L'impératrice est admirable. Tout le monde en a été frappé. Elle est ferme comme un roc, dit Mérimée. Cette femme est une romaine, dit le général Trochu. Même impression produite sur les visiteurs nombreux qui vinrent aux Tuileries apporter des conseils. Le ministère Ollivier tombe. C'est la régente qui forme le nouveau cabinet après une nuit passée à délibérer sur les choix. Le nouveau chef du cabinet n'a aucune autorité dans le Parlement, ni dans le pays. Il est, et en quelles circonstances, de petite envergure. Seule, dans le gouvernement, l'impératrice est en vue. Or, il y a en elle une naturelle énergie, une naturelle hauteur d'âme, un orgueil, une ambition de faire grand. Un grand rôle s'offre, s'impose. Elle le comprend, elle l'aime. Il lui plaît d'être la souveraine. « Certes, l'impératrice a souffert cruellement pendant ses journées, et elle a pleuré, mais en cachette. À ceux qu'elle voyait en larmes, elle disait
« Ne m'attendrissez pas, j'ai besoin de tout mon courage. »
Une seule fois, elle a perdu la maîtrise d'elle-même. Mais au reçu de quelles nouvelles ? Sedan. De folles paroles lui sont alors échappées. Mais le lendemain, elle avait repris son sang-froid.
Voici comment Prosper Mérimée a ressenti ces temps difficiles. Sa lettre est datée du 24 août 1870, juste avant la défaite de Sedan.
Paris, 24 août 1870. Chère comtesse, je réponds bien tard à votre lettre du 16, mais dans ce triste temps, on ne trouve de loisir pour rien faire. La situation demeure toujours la même, toujours dépendant du sort des armes. Pourtant, depuis quelques jours, on a quelque espérance. Le maréchal Bazaine s'est montré très habile manœuvrier. Il a profité d'excellentes positions pour compenser l'infériorité du nombre et les a su garder en faisant éprouver à l'ennemi des pertes énormes. Il paraît que la dysenterie fait de grands ravages parmi les Prussiens. C'est une alliée qui n'est pas à dédaigner. Enfin, il y a, autant que je puis le voir, un vrai mouvement patriotique dans les masses. Et si nous avons des succès, cela ira toujours croissant. Le dernier emprunt est déjà rempli, ce qui est un assez bon signe, car l'argent plus encore que la poudre est nécessaire à la guerre. J'ai vu deux fois l'impératrice depuis nos malheurs. Elle est ferme comme un roc. Elle m'a dit qu'elle ne sentait pas la fatigue. Si tout le monde avait son courage, le pays serait sauvé et pas un Prussien ne repasserait le Rhin. Malheureusement, alors même que l'invasion serait victorieusement repoussée, le danger ne serait pas encore conjuré. Il y a la 4e armée de M. de Bismarck, et celle-là est à Paris. L'impératrice me disait avec raison « Les Français veulent qu'on soit toujours heureux ». Le corps législatif nous donne un triste spectacle, et je crains tous les jours quelques nouvelles folies. Un monsieur d'Estourmel, député légitimiste, est allé dans son département où il a dit assez publiquement qu'on allait prononcer à la Chambre la déchéance de l'empereur. Là-dessus, on lui a administré une palissade très rude et on l'aurait pendu sur la place, sans l'intervention de quelques gendarmes. Il serait à désirer que l'exemple se renouvelât. L'impératrice m'a dit que l'empereur supportait très bien la vie qu'il mène, ainsi que le prince impérial. Pauvre enfant, c'est une rude éducation qu'il reçoit là. Puisse-t-elle lui profiter pour l'avenir ? Adieu. Chère comtesse, je vous souhaite santé et tranquillité d'esprit. Mais pour cela, je sais qu'il faut l'intervention de la Providence. Je suis toujours souffrant et l'anxiété que me donnent les affaires publiques ne contribue pas à me remettre. Aujourd'hui, on paraît un peu plus rassuré, bien qu'on n'ait pas de nouvelles certaines. Agréez, chère comtesse, tous mes vœux et mes respectueux hommages.
Après la défaite catastrophique de Sedan, c'est la chute et l'exil. Le 3 septembre, Napoléon III est fait prisonnier. Il envoie un télégramme à la régente. L'armée est défaite et captive. N'ayant pu me faire tuer au milieu de mes soldats, j'ai dû me constituer prisonnier pour sauver l'armée, Napoléon. Le 4 septembre 1870, sous les cris « À bas Badingue, vive la République !» l'impératrice doit fuir en fiacre les Tuileries et se réfugier en Angleterre, où la rejoint quelques jours après son fils, le prince Louis-Napoléon, âgé de 14 ans. C'est la dernière lettre de Mérimée à la comtesse de Montyrot que nous allons entendre. Mérimée meurt le 23 septembre à Cannes. Cette lettre est datée du 8 septembre 1870. L'impératrice, exilée, y est désignée sous le nom de comtesse de Pierrefonds. Le 27 octobre, Metz capitule et toute l'armée du Rhin est prisonnière.
Paris, 8 septembre 1870. Chère comtesse, j'étais tellement souffrant lorsque Don Félix est parti que je n'ai pu vous écrire un petit mot comme je me l'étais proposé. Mais vous savez ce que je pensais et ce que je pense. J'ai beaucoup regretté de ne pas pouvoir dire adieu à une noble exilée. Si j'en avais eu la force, j'aurais voulu lui dire de songer beaucoup à la postérité, d'autant plus qu'elle me semble ne rien regretter du présent, que je voudrais passer encore quelques heures auprès d'elle et lui persuader d'écrire 300 pages qui paraîtront, quand il plaira à Dieu, et qui feront que les gens qui ne sont pas encore nés deviendront amoureux d'elle. Les dernières fois que j'ai eu l'honneur de la voir, elle m'a paru complètement dégoûtée de sa position, lasse d'avoir vu tant de fausseté et tant de lâcheté. À plusieurs reprises, elle m'a dit qu'elle espérait bien que son fils n'aurait pas d'ambition et ne penserait qu'à vivre heureux dans l'obscurité. Cela est facile à dire et on ne peut manquer de le dire, la situation étant donnée, mais personne ne sait ce qui arrivera dans 10 ans. Pour moi, je crois qu'il doit se tenir prêt pour son heure, si elle doit venir. Il a beaucoup à apprendre de son père et de sa mère, et ces 2 derniers mois ont dû lui valoir plus qu'un cours d'histoire de 2 ans. Si je pouvais faire entendre ma petite voix d'asthmatique, j'appellerais l'attention de votre gendre sur un point historique qui est pour tout le monde parfaitement incompréhensible. Par quels moyens a-t-il été trompé sur la nature des moyens dont il disposait et sur la situation des 2 pays? Pourquoi, dès le premier échec, son style a-t-il complètement changé, en sorte que ses premières dépêches ont beaucoup plus alarmé que les bulletins plus détaillés qui les ont suivis? Il semble qu'il y ait eu, à ce moment, comme une sorte de révélation de la vraie situation des choses. Soyez assez bonne, chère comtesse, pour exprimer à la comtesse de Pierrefonds mon grand et énorme regret de ne l'avoir pas vue dimanche. Je pars aujourd'hui ou demain pour Cannes, et je ne sais si j'en reviendrai. Ma santé est d'ailleurs si mauvaise qu'il n'y a guère de chance que je puisse jamais entreprendre un plus long voyage. L'espoir de passer quelques moments auprès d'elle serait la seule cause qui pût me déterminer à faire une tentative de mes forces. Adieu, chère comtesse. Remerciez Don Félix de toutes ses bontés pour moi. Il venait m'apporter toutes ses nouvelles. Veuillez agréer tous mes vœux et l'expression de mes tendres et respectueux hommages.
La cour Gaillet évoque maintenant les temps d'exil de la famille impériale. Eugénie vécut 50 ans hors de France.
L'impératrice ne pouvait demeurer dans l'hôtel de Hastings où le hasard l'avait conduite. Elle loua bientôt à Chislehurst, dans la banlieue sud de Londres, la propriété de Camden Place que lui avait indiqué le docteur Evans. Elle s'y installa avec son fils dès le 2 septembre. Elle était encore à Hastings quand elle écrivit au tsar Alexandre III et à l'empereur François-Joseph 2 lettres de caractère privé, comme elle pouvait seulement en écrire à présent, pour solliciter l'intervention de l'un et de l'autre en faveur de la paix. Elle disait en particulier au tsar
« Je viens supplier votre majesté d'user de son influence afin qu'une paix honorable et durable puisse se conclure quand le moment sera venu. » Que la France trouve chez votre majesté, quel que soit son gouvernement, les mêmes sentiments qu'elle nous avait montrés dans ces dures épreuves.
On devine le ton de chaque réponse, pleine de courtoisie et de sympathie impuissante. Ce fut encore à Hastings que commencèrent, dès le 12 septembre, d'abord à l'insu de l'impératrice, les péripéties de l'incident régné. Ce personnage mystérieux s'était fait fort d'ouvrir des relations directes avec le maréchal Bazaine, enfermé dans Metz. On vit, en effet, arriver à Chislehurst, le 28 septembre, de la manière la plus inattendue, le général Bourbaki, qui commandait à Metz la garde impériale. Ni cette visite, ni la visite d'un autre envoyé de Bazaine, le général Boyer, ni les démarches ténébreuses de Régnier, n'eurent et ne pouvaient avoir aucun résultat. Le 27 octobre, Metz avait capitulé et toute l'armée du Rhin était prisonnière. Au général Boyer, qui lui avait appris ce malheur et qui était alors à Londres, l'impératrice écrivit cette réponse.
« Je viens de recevoir votre lettre. Brisée par la douleur, je ne puis que vous exprimer mon admiration pour cette vaillante armée et ses chefs. Accablée par le nombre, mais gardiens fidèles de la gloire et de l'honneur de notre malheureuse patrie, ils ont conservé intacte la tradition de nos anciennes légions. Vous connaissez mes efforts et mon impuissance pour conjurer un sort que j'eusse voulu leur épargner, au prix de mes plus chères espérances. Quand vous rejoindrez vos compagnons d'armes, dites-leur qu'ils ont été l'espérance, l'orgueil et la douleur d'une exilée, comme eux.
Au mois de novembre, dans le plus grand secret, l'impératrice se rendit à Wilhelmshöhe, où l'empereur était enfermé depuis la capitulation de Sedan. Elle n'y passa que quelques heures. L'entrevue fut douloureuse entre les deux époux qui ne s'étaient pas revus depuis la séparation de Saint-Cloud. Les malheurs effroyables qui s'étaient abattus depuis lors sur leur trône et sur la France, et dans lesquels chacun avait sa part de responsabilité, leur firent oublier ce qui les avait divisés et les rapprochèrent pour toujours. Le comte de Mons, qui était le gouverneur allemand de Wilhelmshöhe, fut frappé de l'énergie et de l'autorité de l'impératrice. J'eus, dit-il, l'impression absolue qu'elle était habituée non seulement à se faire écouter, mais encore à avoir le dernier mot. En l'absence de l'empereur, qui était prisonnier, et du moment que le gouvernement de la défense nationale avait la tare, aux yeux de nos ennemis, d'être sorti d'une insurrection et non d'une consultation nationale, l'impératrice qui avait exercé la régence pouvait représenter ce qui restait du côté français d'autorité régulière. Guillaume Ier et Bismarck le croyaient, ou feignaient de le croire, dans l'espoir de diviser les Français. L'impératrice ne tomba pas dans le piège. À des ouvertures indirectes de pourparlers, elle fit répondre qu'elle ne pourrait donner suite que si les conditions de paix futures lui étaient clairement indiquées. Quand elle connut ce que nos ennemis exigeaient, elle écrivit à Guillaume Ier en le suppliant de ne pas commettre la faute d'annexer l'Alsace s'il voulait que la paix fût sincère et durable. Le roi de Prusse lui répondit en se retranchant derrière les nécessités militaires.
Voici dans sa totalité la lettre de Guillaume Ier.
Madame, j'ai revu la lettre que votre majesté a bien voulu m'adresser et qui a évoqué des souvenirs du passé que je ne puis me rappeler sans regret. Personne plus que moi ne déplore le sang versé dans cette guerre qui, votre majesté le sait bien, n'a pas été provoquée par moi. Depuis le commencement des hostilités, ma préoccupation constante a été de ne rien négliger pour rendre à l'Europe les bienfaits de la paix, si les moyens m'en étaient offerts par la France. L'entente aurait été facile tant que l'empereur Napoléon s'était cru autorisé à traiter et mon gouvernement n'a même pas refusé d'entendre les propositions de Jules Favre et de lui offrir les moyens de rendre la paix à la France. Lorsqu'à Ferrières, des négociations parurent être entamées au nom de votre majesté, on leur a fait un accueil empressé et toutes les facilités furent accordées au maréchal Bazaine pour se mettre en relation avec votre majesté. Et quand le général Boyer vint ici, il était possible encore d'arriver à un arrangement si les conditions préalables pouvaient être remplies sans délai. Mais le temps s'est écoulé sans que les garanties indispensables pour entrer en négociation eussent été données. J'aime mon pays comme vous, madame, vous aimez le vôtre. Et par conséquent, je comprends les amertumes qui remplissent le cœur de votre majesté, et j'y compatis bien sincèrement. Mais après avoir fait d'immenses sacrifices pour sa défense, l'Allemagne veut être assurée que la guerre prochaine la trouvera mieux préparée à repousser l'agression sur laquelle nous pouvons compter aussitôt que la France
aura réparé ses forces et trouvé des alliés. C'est cette considération seule, et non le désir d'agrandir une patrie dont le territoire est assez grand, qui me force à insister sur des cessions de territoire qui n'ont d'autre but que de reculer le point de départ des armées françaises qui, à l'avenir, viendront nous attaquer. Je ne puis juger si Votre Majesté était autorisée à accepter au nom de la France les conditions que demande l'Allemagne. Mais je crois qu'en le faisant, elle aurait épargné à sa patrie bien des maux et l'aurait préservée de l'anarchie qui aujourd'hui menace une nation dont l'empereur pendant 20 ans avait réussi à développer la prospérité. Veuillez croire, Madame, aux sentiments avec lesquels je suis de Votre Majesté le bon frère. Guillaume, Versailles, le 26 octobre 1870.
La cour Gayet poursuit.
Ces documents furent communiqués en 1918 de la part de l'impératrice et par l'intermédiaire d'une relation commune, le docteur Hugenschmidt, au président du Conseil, Georges Clémenceau. Lu par le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Pichon, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, le 1er mars 1918, à la séance où fut commémorée la protestation de l'Alsace et de la Lorraine, ils produisirent une impression profonde. L'impératrice reçut, à cette occasion, les remerciements du gouvernement français. Notre ambassadeur à Londres, Paul Cambon, chargea Don Fernand Cabrol, l'abbé de Saint-Michel de Farnborough, de lui remettre la lettre du président du Conseil. L'impératrice, dont la vue était très affaiblie, ne pouvait pas lire la signature. Don Cabrol lut le nom.
« Et dire que c'est Clémenceau qui m'écrit à moi !»
Malgré sa surprise, elle eut un très grand plaisir d'avoir reçu cette lettre. Napoléon III avait été remis en liberté. Il arriva à Chislehurst le 20 mars 1871. Alors fut organisée autour des anciens souverains et de leurs fils une manière de cour, avec les deux nièces de l'impératrice, filles de la duchesse d'Albe, plus tard duchesse de Medina Coeli et duchesse de Tamames, avec le duc de Bassano, ancien grand chambellan, son fils, le marquis de Bassano, le comte Clary, Madame le Breton, Augustin Filon, précepteur du prince, et quelques personnes, fidèles aux exilés, qui constituaient un service d'honneur. La mort de Napoléon III survint le 9 janvier 1873. Ce ne fut pas seulement un grand deuil pour sa veuve et pour son fils. Ce fut encore un événement gros de conséquences politiques. Le nouveau chef du parti bonapartiste, Napoléon IV, était un jeune homme de près de 17 ans à cette époque, sur qui ses partisans pouvaient fonder de légitimes espérances. Dans les derniers jours du mois d'août 1870, quand on attendait les pires malheurs, l'impératrice découragée avait envisagé pour le prince impérial le repos du silence. Elle avait dit à Mérimée
« J'espère que mon fils n'aura pas d'ambition et qu'il vivra heureux dans l'obscurité. »
Le prince impérial, officier dans l'armée anglaise, meurt lors d'une mission en Afrique du Sud en 1879. Pris dans une embuscade, il succombe sous les sagaies des Zoulous. Dès lors, Eugénie mène une vie d'errance. Sa vitalité reprend cependant le dessus. Elle reste en relation avec les souverains de l'époque, s'intéresse aux nouvelles inventions, suit de près les affaires de l'Europe et le déroulement de la Première Guerre mondiale. Octave Aubry décrit Eugénie dans sa vieillesse.
L'âge, après l'infortune, l'avait épurée. Ses rancunes finissaient de mourir. Elle aussi, à tant prolongé sa carrière, sentait refroidir son âme. Vivant témoin d'une époque encore plus enfouie que méconnue, elle comprenait maintenant des faits, des événements, des hommes que naguère elle ne comprenait pas. Arrivée enfin à la sérénité après tant de misère, clignant ses yeux faiblissants, elle souriait. Cependant, son intelligence demeurait active et prompte. Elle vivait de plus en plus par l'esprit Elle suivait de près les recherches scientifiques, l'aviation, la TSF. Elle se faisait renseigner sur le radium, ses applications. Elle lisait toujours assidûment. Les questions de politique étrangère la préoccupaient avant tout. Elle recevait les confidences de personnages anglais du premier plan, d'ambassadeurs reçus en week-end à Farnborough. Elle connaissait les dessous de maintes parties diplomatiques. Elle dénonçait des intrigues en chemin lorsque le pape Léon XIII refusa de lui donner audience pour la raison qu'elle avait en 1876 franchi les portes du Quirinal et rendu visite au prince Humbert d'Italie. Elle prévint Maurice Paléologue que M. Loubet ne serait pas non plus à sa prochaine visite reçue au Vatican, ce qui faisait prévoir une crise sérieuse dans les rapports de l'Église et de la France. Elle le disait, elle n'était pas devenue républicaine, mais avant tout sensible aux faits. Elle voyait cette République qu'elle avait détestée, maintenant enracinée au profond du pays. Par certaines faces, son anticléricalisme surtout, cette République lui déplaisait toujours. Mais elle avait rétabli l'armée, assuré les finances, créé un domaine colonial seulement comparable à l'Empire anglais. Cela, elle admirait.
C'est nous qui, les premiers, avons pensé à l'Indochine. Et c'est moi qui ai voulu annexer la Cochinchine.
Une pratique constitutionnelle stable s'était instituée. Le pays était prospère, la vie populaire en progrès marqué. Par une politique à droite, la République avait noué un réseau d'ententes ou d'alliances qui lui avait peu à peu rendu en Europe une position forte et qui n'allait point sans respect. Un jour, comme un hôte de Cyrnos critiquait sans mesure certains ministres républicains, elle lui répondit un peu de haut.
« Vous parlez de décadence ? Je n'en vois pas la trace. La France est très estimée à l'étranger. Je connais à Paris des hommes politiques éminents. Nous avons de bons ambassadeurs. Quelle force il y a dans ce pays ! Quel grand pays !»
Elle approchait de 90 ans. Au Cap Martin, dans le voisinage de Menton, sa villa Cyrnos, très accueillante aux écrivains et aux artistes, était pour les mois d'hiver la résidence de génie. Voici son dernier entretien avec Maurice Paléologue en 1919.
Voilà 6 années que je n'ai vu l'impératrice. Et quelles années ! S'arrêtant pour une semaine à Paris avant de se rendre au Cap Martin, elle m'a fait dire qu'elle m'attendait impatiemment. Dès le seuil du salon, je suis frappé de sa ruine. Elle a 93 ans et demi. Elle touche donc au stade ultime du cycle vital. Sous la chevelure de neige, un teint livide, une peau rugueuse et ravinée, des joues flasques, des lèvres blanches, des narines pincées, des orbites caves, des prunelles vitreuses et fixes, un cou décharné, des mains squelettiques. Mais je m'aperçois vite que dans ce corps misérable continue de régner une âme énergique, tenace et fière.
« Oh, monsieur l'ambassadeur, que je suis ému de vous revoir après de tels événements !»
Elle articule les mots d'une voix ferme en s'arc-boutant au bras de son fauteuil pour se redresser majestueusement comme autrefois, puis hochant la tête.
« Vous rappelez-vous notre conversation de 1906, la prophétie ?» Que vous a faite, monsieur de Courcelles ? Si Dieu vous accorde une longévité normale, 20 années encore, par exemple, vous verrez la restitution de l'Alsace et de la Lorraine à la France. Je l'avais écrite aussitôt, cette prophétie, et j'y pensais constamment. Je n'aurais jamais cru, cependant, que moi, je la verrais s'accomplir. Aujourd'hui, je comprends pourquoi Dieu m'a fait vivre aussi longtemps. Ma chère amie, la reine Victoria, qui avait une confiance absolue dans la justice et la bonté divine, me répétait souvent « Ce que nous ne comprenons pas maintenant, nous le comprendrons plus tard, dans cette vie ou dans l'autre. Mais l'explication ne nous manquera certainement pas. Dieu m'a fait la grâce de me donner l'explication. » Alors que je peux encore m'en réjouir ici-bas, j'aurais donc eu la consolation suprême de voir la France rétablie dans son intégrité nationale. Et j'ai aussi le soulagement de pouvoir me dire que nos morts de 1870, les héros de Wissembourg et de Forbach, de Freuswiller et de Reishofen, de Rosonville et de Gravelotte sont enfin payés de leur sacrifice.
Le tremblement de ses mains, l'oppression de sa poitrine, la fêlure de sa voix l'arrête une seconde, mais s'étant ressaisie, elle conclut avec une émouvante solennité.
Dans la liturgie des agonisants, il y a une prière que j'ai méditée bien des fois, la prière qu'on récite au dernier instant. Quittez ce monde, âme chrétienne, sortez de votre corps. Eh bien, quand le prêtre les prononcera sur moi, ces paroles sublimes, c'est en pleine gratitude, en pleine sérénité, que mon âme obéira.
Je la remercie de m'avoir pris pour témoin d'une si noble effusion. Tout ce qu'elle me dit ensuite sur les épisodes principaux de la guerre mondiale me prouve qu'elle les a vécus en intime communion avec l'âme française. J'observe qu'il y a mêlé continuellement comme un leitmotiv le souvenir de 1870. C'est ainsi que l'union sacrée, ce miracle d'enthousiasme et de concorde qui a groupé tous les Français contre l'Allemagne durant 4 années, lui arrache cette plainte.
Pourquoi la même union ne s'est-elle pas réalisée autour de l'empereur et de moi, sous le coup de nos premiers désastres? Pourquoi les passions publiques se sont-elles déchaînées contre nous, après Freuswiller et Forbach, puisqu'elles se sont si bien contenues après Charleroi? Enfin, pourquoi ne m'a-t-on pas écouté le 4 septembre, quand je suppliais qu'on fît trêve aux querelles intérieures, pour ne songer qu'à la France?
Elle ferme un instant les yeux comme si elle plongeait dans le passé, puis elle reprend avec chaleur.
N'estimez-vous pas que la guerre mondiale me justifie absolument d'avoir cru qu'après Sedan, la France pouvait résister encore, d'avoir soutenu, dans toute la mesure de mes faibles moyens, l'héroïque effort de la défense nationale, enfin, de n'avoir jamais voulu pactiser avec la Prusse, au risque même de perdre ainsi notre dernière chance de remonter sur le trône. Dieu sait si le parti impérialiste m'a reproché mon attitude et mes sentiments d'alors. J'avais contre moi jusqu'à mon entourage intime, jusqu'à mes dévoués amis de Hastings et de Chislehurst.
Elle me dit encore.
Je dois rendre justice à la République. Elle était mieux préparée aux événements de 1914 que nous ne l'étions à ceux de 1870. Elle avait un bon outillage militaire et de fortes alliances. Je me rappelle qu'en 1871, dans les jours affreux qui suivirent la signature de la paix, mon pauvre mari, sanglotant, me répétait « Puisse au moins cette cruelle leçon ne pas être perdue. Puisse les Français tirer de cette catastrophe un durable enseignement pour l'avenir. » Eh bien, la leçon n'a pas été perdue. L'enseignement a porté ses fruits.
Peu après une opération de la cataracte, Eugénie, âgée de 94 ans, meurt à Madrid, où elle avait voulu revoir son ciel de Castille. Lors de ses obsèques en Angleterre, Dom Fernand Cabrol prononça son oraison funèbre.
1826 à 1920, c'est presque un siècle dont sa vie fut le témoin. Quelle prodigieuse destinée! Naître dans cette Espagne qui lui resta toujours si chère, d'une famille dont l'histoire est mêlée à l'histoire glorieuse de cette nation. Rencontrer comme par hasard dans la vie cet héritier de la gloire militaire la plus éclatante du siècle. Devenir l'impératrice des Français et porter pendant 17 ans le poids de ce magnifique diadème. puis tomber avec l'Empire dans une guerre malheureuse, dont on lui fera bien à tort porter la responsabilité, perdre dans un accident d'une si étrange fatalité qu'il reste pour certains historiens un mystère encore inexpliqué, ce fils, héritier de tant de gloire et de tant d'infortune, à qui semblait promis un empire. Vivre ensuite de longues années encore dans son deuil, jusqu'au jour où elle voit réparer dans la plus éclatante victoire la plus cruelle des injustices. Et puis revenir dans cette Espagne de sa jeunesse, à son point de départ, pour y mourir. Quel destin !
Merci de votre écoute et de votre fidélité. La prochaine émission des Académiciens raconte l'histoire évoquera le roi Louis XV.